Voilà, nous lirons dans Matthieu, chapitre 11, du verset 2 à 11. Du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que Christ faisait. Il envoya auprès de lui deux de ses disciples. Ils lui demandèrent, « Es-tu celui qui devait venir ? Ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus leur répondit, « Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Comme les envoyés s'en allaient, Jésus saisit cette occasion pour parler de Jean à la foule. Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Leur demanda-t-il. Un roseau agité çà et là par le vent ? Oui, qui donc êtes-vous allé voir ? Un homme habillé avec élégance ? Généralement, ceux qui sont élégamment vêtus vivent dans les palais royaux. Mais qu'êtes-vous donc allé voir au désert ? Un prophète ? Oui, assurément, et même bien plus qu'un prophète. C'est moi qui vous le dis. Car c'est celui dont il est écrit, « J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. » Vraiment, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jusqu'ici notre lecture.
Si nous pouvons dès maintenant aventurer une leçon sur cette pandémie qui nous frappe depuis plus d'un an, c'est qu'elle a bousculé nos certitudes. La Chine, terrassée la première, a su réagir et maîtriser la situation, semble-t-il, mais il est pour l'heure impossible de dire d'où vient ce virus et quel a été son impact réel sur la population. Certains dirigeants de pays occidentaux ont même nié son existence ou sa dangerosité pour le plus grand malheur de leur population. En Europe, certains se sont montrés soi-disant capables de dominer les choses avant de succomber comme les autres. Comme quoi, l'image d'une nation forte ne repose peut-être que sur des clichés. On voit bien ici le rapport entre l'image et la vérité. Et puis, ce qui n'est pas tout à fait faux est presque vrai. On parlera de vérité alternative, comme un ancien président américain. Même la science, cette valeur refuge, qui habituellement met tout le monde d'accord, se révèle pour le moins désunie, à tel point que le politique ne s'appuie plus sur elle. On dit souvent que le monde est fou. Je dirais plutôt qu'aujourd'hui, le monde est flou. Le monde de cette antiquité hébraïque n'est pas beaucoup plus clair. On peut bien sûr parler de l'occupation romaine, vécue comme un amoindrissement de l'identité juive, mais elle fait suite à l'occupation perse et sera poursuivie par l'occupation ottomane. Et si on regarde avec un peu de recul l'histoire de la Palestine, on voit que l'occupation est presque une habitude. La société de cette époque compose avec l'occupant, comme les pharisiens par exemple, ou ne compose pas, comme les Esséniens ou plus tard les Zélotes, qui attiseront la révolte au point que Titus, un empereur romain, enverra ses légions. Et Jean-Baptiste dans tout ça. On sait pas mal de choses sur lui, mais les éléments historiques ne sont pas toujours très précis. Jean est impur. Il n'accepte pas la domination romaine, tout compromis lui est insupportable. Est-il proche des Esséniens, des Zélotes ? On ne sait pas très bien, c'est difficile à dire. En tout cas, il vit dans le désert, en mangeant des sauterelles, critique abondamment le pouvoir en place. Au moment où il envoie ses disciples vers Jésus, il est en prison. Il sait que son temps est compté et il doute. Jean est en plein questionnement. Mis en prison par Hérode parce qu'il avait critiqué son adultère, il se sent abandonné, seul. Il pensait peut-être que Jésus agirait autrement, qu'il ferait cesser l'occupation romaine, la corruption, le compromis contre lesquels il s'est toujours battu. Il n'est pas rare que nous aussi nous sentions abandonnés par le Seigneur alors que nos intentions sont bonnes et nos actions sont justes. Le lieu même de la détention de Jean, sorte de forteresse dans laquelle se trouve un puits profond qui a peut-être servi de prison, nous montre bien qu'il est au fond du trou. Il est tout de même curieux de voir un tel doute de la part de Jean, lui qui a prophétisé sa venue comme un nouvel Élie, qui l'a baptisé, bref, une sorte de précurseur, quoi. Mais le Seigneur ne travaille pas selon le plan des hommes, et son action est souvent, dans un premier temps, incompréhensible. La réponse qu'il fait à Jean-Baptiste ressemble, à première vue, à un rapport d'activité. Il soigne, il guérit, il annonce la bonne nouvelle, enfin, un boulot de messie, quoi. Jean-Baptiste doit se rassurer. Mais quelque chose dans le discours de Jésus me chiffonne, m'embête. Il dit annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Son discours est une citation d'Ésaïe 35, pour la plus grande partie de ce qu'il dit, mais ses dernières paroles ne s'y trouvent pas. Pourquoi des pauvres seulement? Est-ce que les riches n'ont pas besoin? Pourtant, plusieurs personnes fortunées entourent Jésus et même le jeune homme riche se rend bien compte qu'il lui manque quelque chose. Et si la pauvreté n'était pas matérielle, mais spirituelle? Alors le passage prendrait une toute autre tournure. Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle à ceux qui étaient pauvres de lui, qui avaient soif d'une autre vie, non plus matérielle, mais spirituelle. Les aveugles voient. Ne sommes-nous pas parfois plus aveugles que les aveugles parce que nous ne savons pas regarder au-delà des apparences? Les sourds entendent. Le monde fait tellement de bruit autour de nous que nous avons bien du mal à entendre ce que le Seigneur nous dit. Ne sommes-nous pas, comme aujourd'hui, paralysés par le doute, les inquiétudes, les angoisses d'un lendemain qui ne nous apporte que du malheur, alors que le Seigneur nous montre jour après jour comment mettre un pas devant l'autre? Nos mauvaises habitudes, nos compromis, nos pensées faciles nous collent à la peau comme une lèpre, dont nous pouvons nous débarrasser en demandant au Seigneur de nous rendre purs. La mort, enfin, qui rôde autour de nous comme un vautour, ne pourrait plus nous atteindre réellement, étant vivant par le Seigneur. Tout au long de son ministère, Jésus va guérir et soulager parce qu'il a compassion de ceux qui l'entourent. Chaque fois qu'il rencontrera de la douleur et de la détresse, il fera quelque chose. Mais sa mission n'est pas de guérir les corps, mais les âmes. Rappelons ici que la guérison du paralytique passe d'abord par une guérison morale avant d'être physique. Revenons maintenant au roseau. Lorsque les disciples s'en vont, Jésus va parler de Jean. Et revenons donc à ce jugement, à cet éloge qu'il va faire de Jean. Qu'est-ce que c'est qu'un roseau agité par le vent? Je ne sais pas si cette image ne vous a jamais frappé. Une chose insignifiante. Généralement, un roseau n'est jamais seul. Vous en avez plusieurs et donc il y en a un qui s'agite par le vent. Et donc ce serait une chose insignifiante, de peu d'importance, qui attire simplement notre attention par son mouvement. Or nous sommes dans un monde où ceux qui s'agitent, qui font beaucoup de bruit, se font forcément remarquer. Une des techniques d'ailleurs employées par les générateurs de fake news est précisément celle-ci. Je fais beaucoup de bruit, je suis partout à la fois, donc ce que je dis est forcément un peu vrai. Or l'attitude de Jean-Baptiste est exactement l'inverse. Il est prophète. C'est-à-dire qu'il est porteur d'une parole qui le dépasse lui-même. Il ne dit pas ce qu'il pense, il dit ce qu'il a reçu. Il annonce la venue du Seigneur sans forcément comprendre déjà le déroulement de son ministère. Jésus admire cette attitude. C'est pourquoi il en fait l'éloge. En effet, cette voix qui crie dans le désert est entendue. Nous sommes, nous aussi, entourés de gens qui, médiatiques ou non, nous parlent des années qui viennent avec assurance, nous qui sommes en plein doute. Des journalistes, des épidémiologistes, des infectiologues, on a appris plein de nouveaux mots, des philosophes, des politiques, des économistes, bref. Qui croire ? À qui accorder notre confiance ? À personne. Concentrons-nous plutôt sur l'œuvre que le Seigneur fait dans nos cœurs. Bien sûr, nous avons des doutes, des inquiétudes, des angoisses même. Mais n'oubliez pas que le Seigneur, notre bon berger, nous accompagne même dans les vallées les plus sombres. Amen.